Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio PFM 99.9 pour l'Actuality, l'émission de débat entre lycéens. Et avant de commencer le débat, comme d'habitude, voici une musique qui devrait vous indiquer notre sujet de la semaine. Est-ce la paix au Venezuela, en Algérie ou en Angleterre? Serait-ce de la violence? Nous pouvons voir un torrent de larmes ici-bas, une effusion de joie là-bas. Mais à la fin, ces jérémiades ne sont-elles pas symboles de coups bas ou de coups d'État? Alors, on en débat pendant 30 minutes avec l'Actuality sur Radio PFM 99.9. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, évidemment, je suis entouré de Sarah. Bonjour Sarah.
Bonjour.
D'Héloïse.
Salut.
De Samba.
Salut.
De Thomas.
Bonjour.
D'Arthur.
Bonjour à toutes et à tous.
Ainsi que de Julie à la régie.
Bonjour.
Comme vous l'avez compris, nous allons faire un point sur l'actualité internationale du moment. Pour comprendre s'il s'agit de paix ou de violence dans ces pays. Alors nous allons principalement parler du Venezuela, de l'Algérie et de l'Angleterre. Vous êtes tous d'accord sur ces trois pays?
Bien sûr.
Oui.
D'accord, très bien. Et justement, avant d'attaquer sur ces trois territoires, que pensez-vous de cette actualité internationale du moment?
Oula.
Vaste question.
Bah moi, j'entends parler que d'un seul pays en ce moment, c'est l'Algérie.
Oui.
Avec l'élection du président qui n'est plus vraiment en mesure se présenter.
Exactement, et qui ne se présentera pas après de multiples rebondissements. Arthur, ton sentiment sur cette actualité internationale du moment?
Actualité internationale très agitée, notamment au Venezuela avec un climat très tendu et donc je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir.
Évidemment qu'on aura l'occasion d'y revenir. Thomas, ton petit sentiment?
Écoutez, avec un petit Brexit qui se prépare pour l'Angleterre.
Ouais, est-ce qu'on va avoir un deal ou est-ce qu'on en aura pas, Sarah? Non, c'est bien ce qu'on va. On a un peu de teasing là, qui est en train d'être fait. Loïs, ton avis?
Ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et on se demande quelle va en être la finalité pour chacune de ces choses, que ce soit l'Angleterre, le Venezuela, pardon, l'Algérie.
Ouais, les impacts à l'international. Ouais.
Exactement.
Plus, c'est des choses qu'on peut pas trop prédire, quoi, parce qu'il y a toujours des rebondissements dans cette histoire-là.
Exactement.
Alors,
puis on s'imagine des conséquences, mais au final, c'est jamais les conséquences qu'on prévoit, donc on verra bien.
Carrément, surtout qu'une fois de plus au Brexit, d'ailleurs on va en parler, il y a eu un nouveau rebondissement, nous enregistrons l'émission le vendredi 15 mars, je tiens à le préciser car l'actualité risque de bouger à l'heure où vous écoutez l'émission. Donc nous allons commencer donc par l'Angleterre et le Brexit. Le Brexit, je le rappelle, prévoit la sortie de l'Angleterre de l'Union Européenne. Les Anglais avaient voté pour sa sortie de l'UE le 23 juin 2016. 52% des inscrits avaient souhaité le départ de l'Angleterre. La procédure a donc été lancée le 29 mars 2017 par le Conseil européen. Elle avait été déposée par Theresa May, fraîchement élue première ministre, qui a succédé à David Cameron. Aujourd'hui, la sortie est loin d'être actée. En effet, quelques éléments coincent dans les négociations, comme la question du retour de la frontière entre l'Irlande du Nord, sous tutelle anglaise, et la République d'Irlande, qui, elle, fait encore partie de l'Union européenne. En effet, les pro-Brexit craignent que le filet de sécurité prônant l'ouverture de la frontière entre les deux pays soit indéfini et permette à la Grande-Bretagne de rester dans l'Europe. Le problème, c'est que la sortie est normalement prévue pour le 29 mars. En tout cas, il va y avoir un report qui a été déposé. Le Parlement anglais a voté pour un report du Brexit hier, le jeudi 14 mars. Donc c'était prévu normalement pour le 29 mars, soit dans un peu plus de 15 jours. Il y a un accord qui a déjà été trouvé, mais que le Parlement britannique a déjà refusé de ratifier à deux reprises. La dernière en date, c'était le 12 mars. Donc entre refus du Parlement britannique, refus de l'Europe de renégocier un accord, Theresa May est un peu sur une route barrée, tout le monde est contre elle, mais la sortie de l'Angleterre de l'Union Européenne doit normalement se faire. Première question, le Brexit, vous étiez favorable ?
Moi j'ai clairement peur de ce que ça va donner, parce que faire route seule, ça n'a jamais marché, et l'Union Européenne était clairement une force de paix et d'économie, donc je me demande vraiment, après voilà, ils peuvent s'en sortir, mais j'ai peur pour eux quand même.
D'accord, Sarah ?
Bah, par rapport à favorable ou pas au Brexit, je pense déjà qu'ils ne faisaient pas partie de l'espace Schengen ni de Maastricht.
Non, ils avaient un cas encore à part, ils n'avaient pas l'euro non plus.
C'est ça. Donc, En fait, ils faisaient partie de l'Union européenne, mais tout en n'en étant pas vraiment. La seule chose qu'ils avaient, c'était donner des participations économiques et recevoir des aides.
Profiter des avantages de l'Europe.
Donc voilà, c'est ça, des avantages et des inconvénients, justement. Ils disent qu'ils quittaient parce qu'ils donnaient plus qu'ils ne recevaient. Mais il faut savoir que, en fait, c'est la Grande-Bretagne entièrement qui quitte l'Union européenne et pas juste l'Angleterre.
Oui, donc, c'est la
Donc en fait, c'est énormément d'Anglais qui ont voté pour la sortie de la Grande-Bretagne en dehors de l'Union européenne, mais pas les petits, enfin les petits pays.
L'Écosse,
l'Irlande du Nord, tout ça. En fait, ils étaient eux pour rester dans l'Union européenne. Est-ce qu'il faut, enfin par exemple, je vais prendre l'exemple de l'Écosse. Oui, voilà. Il y a les fermiers parce que c'est quand même une terre assez agricole. C'est pas le premier revenu. Le premier c'est le pétrole, mais le deuxième c'est l'agriculture. Et un fermier avec, il va plus y avoir les aides agricoles, je sais plus comment ça s'appelle, agricole policy.
PAC.
La PAC, merci. Super, donc ouais, ils vont plus recevoir la PAC et en fait ça va faire une baisse d'environ d'un quart de leurs revenus par an.
Waouh.
Oui, surtout que l'Écosse, elle voulait rester vraiment dans l'Europe et voulait même 64%. Devenir
indépendant. Et oui, et pour l'indépendance, ouais, ça reste compliqué quoi.
Et donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a des gens qui ont clairement rien demandé, en fait, qui n'ont pas pu voter et qui vont du coup subir dans leur revenu.
En fait, ils ont pu voter, mais c'est-à-dire que la population de l'Écosse par rapport à la population d'Angleterre est moindre.
C'est pas du tout la même chose.
Ah oui, donc ça n'a pas eu trop d'impact.
Bien que le pays soit aussi grand à peu près, il y a beaucoup moins d'habitants.
D'accord.
Et donc, 64% des habitants d'Écosse, enfin des Écossais, ont voté pour rester dans l'Union européenne. Mais avec les autres, comme c'est la Grande-Bretagne en entier, et la Grande-Bretagne, ils ont eu comme quoi ils sortaient de l'Union européenne. Donc ils sont obligés de subir ça.
Très bien. Samba, ton avis au Brexit, tu étais pour ou pas ?
Bah, j'étais pas trop pour, parce qu'il y avait quelqu'un dans mon entourage qui devait faire un Erasmus en Irlande. Et qui a pas...
En Irlande du Nord, du coup.
Ouais. Et qui a été un peu... son Erasmus a été compromis à cause du Brexit, et je trouvais ça dommage. Puis comme tu disais tout à l'heure, c'est dommage que les plus petits pays étaient influencés par l'Angleterre, quoi.
Ça, c'est pas forcément une majorité représentative.
C'est sûr.
Thomas ?
Alors oui, même si ça a des inconvénients, le Brexit a quand même des avantages au niveau de la France. Notamment au niveau des ports ou des... Mais bon, il y aura des taxations supplémentaires.
Oui, des taxes sur les taxes douanières, notamment. Ouais. Arthur ?
Alors moi, je trouve le Brexit plutôt positif. Les Britanniques prennent en main leur pays. Le Brexit, c'est une décision principalement en raison de la conjoncture économique actuelle. Et donc c'est en réalité pour pouvoir reprendre en main leur économie qu'ils ont décidé de sortir de l'Union européenne. Cependant, je pense qu'il demeure très important que un accord soit trouvé afin de conserver notamment ce que tu disais pour les accords Erasmus et vraiment qu'ils se différencient économiquement mais que tout le reste, la plupart des choses puissent rester dans un commun accord entre les pays de l'Union européenne et eux qui vont bientôt sortir.
Donc faire en sorte que l'Angleterre conserve quelques avantages quand même, Arthur ?
L'Angleterre comme,
les pays de la Grande-Bretagne.
Parce qu'en réalité, l'accord, s'il n'y a pas d'accord, si ce Brexit se conclut par un no deal, il y aura autant de conséquences pour les pays de l'Union européenne que pour les pays, que pour l'Angleterre en réalité.
Carrément. Est-ce que ça vous inquiète maintenant le Brexit ? Maintenant que le Parlement britannique n'est pas forcément favorable à l'accord trouvé par Theresa May, qu'il y a un risque de no deal qui approche, même si... Le Brexit va être reporté, la sortie de la Grande-Bretagne va être reportée. Est-ce que ça vous inquiète ?
Concrètement, si ça a des impacts sur l'économie française, oui, ça peut être inquiétant. Et tout dépend déjà, alors comment ça va se terminer cet accord ? Est-ce qu'ils vont réellement trouver un accord ou non ? Et parce que ça me l'air vachement compliqué, cette affaire. Et après, oui, il faut voir quel impact ça aura sur l'économie de l'Union européenne en général et tout ça.
À mon avis, ce ne sera pas forcément positif. Sarah, ça t'inquiète ?
Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est pour les autres pays, comme je disais, l'Irlande du Nord ou l'Écosse, qui, eux, vont subir plus fortement les inconvénients du Brexit que l'Angleterre.
D'accord.
C'est un peu des délaissés de
Brexit. Oui. Par exemple, l'Irlande, elle avait une exportation de viande qui revenait jusqu'à 2 milliards et demi de dollars par an.
Sans doute, j'ai pas les chiffres en tête.
Oui, si, c'est ça. Je crois que c'est ça. Et donc, avec la volonté de faire une frontière à travers la mer, là, j'ai pas trop compris leur truc, bref.
La frontière entre la mer, la ligne...
De commerce, je sais plus quoi, bref.
Je cherche le filet de sécurité.
Oui, mais en gros, ça va baisser leur taux d'exportation. ils vont pouvoir s'en faire, si on veut, seulement avec, on va dire, l'Islande et les pays du Royaume-Uni. Et avec l'Europe, ce sera beaucoup plus compliqué.
Oui, c'était surtout le filet de sécurité, c'est aussi pour ne pas fâcher l'Irlande et l'Irlande du Nord, qui ont longtemps été en guerre, entre guillemets. On se rappelle évidemment tous les événements tragiques qui sont passés entre les deux pays. Samba, ça t'inquiète maintenant,
Brexit? Moi, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus, parce que je ne connais pas trop les conséquences que le Brexit aura sur la France. Je ne sais pas si tu peux m'en donner quelques-unes, si tu es au courant de tout ça.
Alors, par exemple, pour la France, j'entendais, je reste dans le domaine de la pêche, si le Brexit ne se concluait sans accord, il y aurait des conséquences, notamment pour les ports d'attache du nord de la France, puisque les pêcheurs ne pourraient plus se rendre dans l'espace de pêche actuellement commun, mais qui redeviendrait propre à l'Angleterre. Mmh. Donc, ils auraient un territoire de pêche en diminution et ça impacterait leur économie.
Et ça impacterait aussi l'économie des régions, justement, puisque tu disais que c'était dans la France.
Mmh, totalement. Justement, Arthur, ton avis, ça t'inquiète ?
Alors oui, c'est inquiétant parce que je reprends cet exemple. C'est des emplois qui risquent de rester sur le carreau. Et donc oui, c'est assez inquiétant. Oui. Mais je pense que l'Union européenne comme l'Angleterre vont réussir prochainement à trouver un accord commun.
D'accord. Thomas ?
Je suis assez confiant.
Oui, assez confiant. Justement, on va en parler juste après. Thomas, ça t'inquiète ?
Un peu, forcément, parce que c'est quand même important ce qui se passe. L'Angleterre qui quitte l'Union européenne, alors qu'elle y était depuis déjà de nombreuses années.
Et
mais alors, enfin, c'est pas, je sais pas si ça aura beaucoup d'inconvénients pour la France, si ça en a. Bon,
tant pis, ça en aura, je pense.
Oui, forcément, mais ça aura forcément aussi des avantages, peut-être.
Ça en aura.
Peut-être qu'il y aura peut-être un équilibre.
Voilà, il y aura de graves inconvénients si il n'y a pas l'accord trouvé et qu'il y aura un no deal, justement. L'annonce du report a été officialisée. Est-ce que maintenant vous êtes est-ce qu'on peut espérer un accord ? Ou est-ce qu'on se dirige encore vraiment vers la voie du no deal ? Héloïse ?
Faut voir comment ça évolue. Moi, pour l'instant, ça me paraît vachement compliqué. Après, tout dépend comment ça évolue. Si on n'en sait rien, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'on avance un peu vers l'inconnu et qu'on verra bien ce que ça donne. Mais je ne sais pas trop.
Ouais, c'est la première ministre de l'Écosse, Nicola Sturgeon. Donc, pour en revenir, en fait, il y avait une volonté d'indépendance depuis les résultats du Brexit qui étaient remontés au niveau de l'Écosse. Et ils avaient justement prévu de refaire un référendum pour savoir si les Écossais préféraient être indépendants ou pas en 2018. Mais il a été reporté sur le même principe que les accords avec le Brexit, pour voir jusqu'où va mener le Brexit, pour voir les conséquences sur la Grande-Bretagne en général. Et donc, en fait, ils estiment le report jusqu'en 2021, je crois, c'est un truc comme ça.
D'accord, justement, est-ce qu'il faut revoter ? Enfin,
pas le report des accords, mais la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe pour 2021.
Il faut revoter le Brexit, le référendum ?
Du Brexit ou...
Du Brexit, totalement.
Ça peut être une bonne idée après. Est-ce que...
Ils sont déjà engagés, ce serait hyper complexe. Et les gens, ils ont voté une fois pour ça.
Ils changeraient sûrement pas d'avis. Quoi.
Je lisais récemment un article avec des statistiques. Actuellement, s'il y avait un nouveau référendum, les résultats ne changeraient pas énormément.
Donc pas très utile.
Très utile.
D'accord, très bien. Alors finalement, je vais le dire en anglais, finally, peace or violence. La paix, c'est de la paix ou la violence là-bas ?
Oula.
Je parle pas forcément de guerre, hein. Attention, quand j'entends violence, c'est pas non plus...
On n'a pas de preuves de violence en soi.
C'est un débat qui est toujours présent depuis le référendum du Brexit, mais... Enfin, quoique ce débat, on l'avait même avant, avec Margaret Thatcher.
Et les relations ont toujours été cordiales, hein, donc non, je pense pas qu'on puisse parler de violence.
Non, ça peut pas. On peut pas parler de violence en soi, mais après, est-ce que c'est vraiment
une violence verbale, hein, ça a toujours été cordial.
Mais est-ce qu'on peut parler d'une ambiance de paix et de bisounours?
Après, c'est ce que je veux dire. La paix, c'est quand même très bisounours. Au moment, il n'y a pas de paix sans guerre.
Je pense que c'est un juste milieu. C'est pas de la violence à proprement parler, mais c'est pas non plus. Ça doit être assez mouvementé quand même.
C'est une situation sujet à débat.
C'est ça.
Très bien. Écoutez, on se retrouve pour la deuxième partie de l'actualité après une petite page. Musical Peace or Violence, on en débat juste après.
Oh, stopped into a church. I passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray.
I pretend to pray.
You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay.
Très bien, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission de l'Actuality Team sur notre point international. On a déjà parlé de l'Angleterre, on va maintenant aborder le Venezuela, puis l'Algérie, normalement, si le temps nous le permet. On en est déjà à la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de Sarah.
Bonjour.
On accueille Jeanne.
Salut.
Bonjour, bienvenue. Héloïse.
Salut.
Flavie, bienvenue aussi.
Bonjour.
Sur la première émission. Mathias, première émission.
Salut.
Bienvenue. Samba.
Salut.
Toujours avec nous. Thomas aussi.
Bonjour.
Arthur.
Re.
Et Julie à la régie. Ça fait beaucoup de monde dans le studio, on n'a jamais été autant je pense. On va essayer
c'est
de parler
beau.
Maintenant du Venezuela alors que Sarah est en train de se marrer, je ne sais pas pourquoi. Donc on va continuer avec le Venezuela. Depuis le 23 janvier, ce pays d'Amérique latine vit avec deux présidents, Nicolas Maduro et Juan Guaido. Super accent espagnol, hein, vous pouvez LV2.
Splendide.
En effet, le premier, donc Nicolas Maduro est socialiste à tendance maoïste, successeur d'Hugo Chavez, en 2014. L'autre était président du Parlement au Venezuela et réclame le départ du président Maduro, comme de nombreuses personnes au Venezuela où des manifestations anti-Maduro font rage depuis 2014. On lui reproche en effet à Nicolas Maduro de contourner la constitution du pays et de diriger le Venezuela comme un dictateur et d'être responsable de la très mauvaise situation économique du Venezuela. Bon, pour vous faire une idée, le FMI a estimé que l'inflation là-bas allait atteindre 10 millions de pourcents en 2019. Ce qui est un peu beaucoup. J'ai été aussi surpris hein, en voyant ce chiffre. Hein, je ne m'inquiétais pas. Comment ?
Là, on est à 2 millions d'inflation.
Ça risque de monter à 10 millions en 2019, c'est selon le FMI.
Waouh.
Ouais, c'est beaucoup. Enfin, plus de 2 millions de personnes sont également parties du Venezuela. Mais Maduro tient bon, a été réélu en 2018 et investi en janvier seulement. Juan Guaido a depuis été reconnu président du pays par une cinquantaine de pays, dont les États-Unis et la France. Quant à vous ? Est-ce que vous reconnaissez Juan Guaido ou Nicolas Maduro à la tête du Venezuela ? Arthur, Juan Guaido ou Nicolas Maduro ?
Alors pour contextualiser un petit peu, Nicolas Maduro a été élu à 50,66% des voix face à Henri Capsri. Donc on peut en déduire que deux oppositions fortes au sein de la population sont présentes. Et donc Nicolas Maduro... actuellement son opposant, comme tu l'as rappelé, Juan Guaido, qui est le président de l'Assemblée nationale, qui s'est autoproclamé. Donc son mandat doit s'achever cette année, en 2019, à Nicolas Maduro. Et actuellement, c'est assez inquiétant, cette situation, puisque le pays est sujet à une grave crise économique. Et je pense notamment aux personnes qui sont obligées d'aller en Colombie pour se nourrir décemment. Et effectivement, je trouve que c'est très, très inquiétant comme situation. Et les droits d'homme ne sont plus respectés dans ce pays actuellement.
Très bien. Donc finalement, tu reconnais plutôt Juan Guaido, si je comprends bien.
Oui, effectivement.
Plutôt. Thomas.
Voilà, même chose, plus pour Juan Guaido.
C'est vrai que c'est impressionnant ce chiffre 50,6. Tu dis, le pays est vraiment divisé.
Ah oui, c'est vraiment divisé, un pays qui est vraiment divisé en deux.
C'est impressionnant. Puis oui, c'est horrible de se dire que le contexte politique oblige les habitants à partir, en fait. Oblige les habitants à quitter le pays et qu'ils ne peuvent pas se nourrir correctement dans leur propre pays, là où ils sont nés. Je trouve ça vraiment désolant.
Et tu reconnais plutôt qui, toi, du coup, Héloïse?
Comme Thomas, Juan Guaido, si je me trompe.
Juan Guaido?
Ouais.
Jeanne?
Plus Guaido quand même, parce que Maduro, c'est carrément dictateur, quoi.
Exactement.
C'est clair. C'est lui qui s'est autoproclamé, c'est ça?
Non, c'est Juan Guaido.
Oui, c'est Juan Guaido qui s'est autoproclamé.
C'est président de l'Assemblée nationale.
Je ne suis pas en accord avec les idées de Nicolas Maduro, mais vous imaginez que Juan Guaido, il s'est autoproclamé. Et en fait, c'est les autres pays qui ont dit « nous, on reconnaît Juan Guaido ». C'est-à-dire que ce n'est pas le peuple qui a choisi. Bon, même si on va dire que le peuple soutient plus Juan Guaido par rapport à ce qu'on entend, les sondages.
Oui.
Mais à partir du moment où ils ont voté Nicolas Maduro, le président reste Nicolas Maduro jusqu'aux prochaines élections. Pour moi, bien que les autres pays le reconnaissent, ça n'en fait pas forcément un président.
Est-ce que la France et les États-Unis, entre autres, ont reconnu un coup d'État, entre guillemets?
Moi, je le vois comme ça, mais après, c'est juste une perception de l'événement qui est beaucoup plus complexe en soi. On ne peut pas dire « je suis pour Juan Guaido » ou « je reconnais Nicolas Maduro ». Je trouve ça vachement complexe et oser, de la part d'un pays, de reconnaître la situation politique d'un autre... Enfin, c'est normal parce qu'ils doivent être reconnus à l'international. Mais après, dire que lui, c'est un président, que Juan c'est Guaido clair. Est un président alors qu'il n'a pas été élu, pour,
c'est un peu comme... excuse-moi, je te...
Oui, vas-y, non, pas de souci.
C'est un peu comme si on voulait définir à qui appartient Jérusalem. Enfin, c'est complexe de dire... C'est complexe de trancher, de dire, telle ville appartient à tel pays. Enfin, je suis d'accord avec toi sur le côté complexe. Après, certes, il a été élu et d'un point de vue officiel, il est président jusqu'aux prochaines élections. Je me dis, je préfère faire passer le côté humain, si je peux dire ça comme ça, et me dire, préférer un président autoproclamé mais qui ne fait pas une dictature... plutôt qu'un président élu, mais qui fait une dictature.
Oui, mais après, c'est ce que certains pays, lors d'une réunion à l'ONU, avaient proposé de refaire
des élections. La France, notamment, l'avait dit.
Oui, mais le problème, c'est que la Russie et la Chine ont posé leur droit de veto pour pas que la décision de l'ONU soit prise, étant donné que la Chine et la Russie soutiennent Nicolas Maduro, vu que tu l'as dit précédemment, que Maduro était
tendance maoïste.
Voilà.
Ouais, exactement. Samba.
Moi, je suis plus Juan Guaido, c'est comme ça qu'on dit.
Oui, Juan Guaido,
même
c'est
si,
ça.
C'est
allemand.
Ouais. Même si je pense qu'un président ne doit pas s'autoproclamer, surtout que c'est une démocratie, le Venezuela.
C'est compliqué.
Là, c'est compliqué, mais...
C'est compliqué. Est-ce qu'on peut parler de démocratie? Il y a eu des élections.
Ouais. S'il y a des élections, je pense qu'il faut que le vrai président, c'est celui que le peuple a élu. Après, si le peuple aime Juan Guaido et que c'est moins un dictateur, je pense que peut-être c'est celui qui est le plus à même de diriger le pays. Mais le fait de s'autoproclamer, je sais pas, je trouve ça bizarre. Quoi.
Bizarre, ouais. Mathias.
À vrai dire, en fait, je partage les opinions de Samba, puisque... à mon sens, être un président, il y a quand même quelque chose de protocolaire derrière. Oui. Donc, le fait... que cet homme, parce que c'est un homme, Juan Guaido, bien entendu, s'autoproclame, ça casse les codes et c'est là où ça me dérange. Mais après, selon les sondages qui ont été faits, si tu me dis que le peuple vénézuélien le préfère à son opposant, dans ce cas-là, je me dis que c'est le choix du peuple, donc pourquoi pas. Après, de là à le reconnaître, je pourrais pas te dire.
D'accord. Thomas ?
Oui. Pour le choisir entre...
Oui.
Ah ben, je réitère mon opinion, qui est que je choisis Juan Guaido.
Flavie ?
Moi aussi, pareil, je suis d'accord, parce que je pense que si c'est le peuple qui a élu Juan Guaido, Nicolas Maduro, ça doit être Nicolas Maduro.
Très bien. Est-ce que, justement, les pays dont les États-Unis, la France, ont eu raison d'intervenir dans ces affaires internationales ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça envenime un peu les choses ?
Souvent, ça fait plus compliquer les choses qu'autre chose, après... Des fois, ça peut aider, mais là, j'ai l'impression que ça fait plus compliqué.
Ça complique les choses.
Ouais.
Arthur.
Alors moi, je vais juste revenir sur la légitimité du président actuel. Alors, il faut quand même noter qu'il y a une pétition qui a été mise en place par les opposants du régime et qui a fait 9 fois le minimum demandé par la loi pour entamer une procédure de destitution. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que cette pétition a été boycottée par le gouvernement mis en place. Les autorités locales ont donné un calendrier qui a été intenable. Le référendum a été ingérable par la suite. Et plusieurs leaders de l'opposition ont été arrêtés. Donc tous ces éléments donnent lieu à un contexte où l'opposition ne peut pas s'exprimer. Donc moi, c'est dans ce sens-là où je reconnais Juan Guaido.
C'est ça, tu fais espagnol avec moi, Arthur, ouais. Franchement. Voilà.
Je le reconnais plus dans ce sens-là parce que, justement, la démocratie est menacée par l'autorité qui est actuellement au gouvernement. Donc, le soutien de la France, des États-Unis, de l'Union européenne dans sa globalité pour cette personne, Juan Guaido, c'est très bien, puisque je pense qu'il faut un renouvellement du gouvernement actuel.
D'accord, Samba, ils ont bien fait d'intervenir.
Bah oui et non, parce que je pense que des situations comme ça, il ne faut pas laisser sans intervenir. Après, c'est toujours compliqué d'intervenir dans ces pays-là parce qu'il y a des risques que ça dégénère.
Oui.
On se souvient du Moyen-Orient en 2003, pardon.
Exactement, oui.
Parce que le problème, c'est que les grandes puissances comme la Russie et la Chine soutiennent le dictateur. Donc là, ça commence à devenir plus compliqué pour le peuple, quoi.
Après, on parle d'intervention, il faut quand même nuancer, c'est juste un avis qui est émis par les pays seulement.
Oui, mais c'est un avis qui est fort.
Et une aide humanitaire aussi.
Aussi, et on le voit, les avis des pays ont toujours un rôle important à jouer. Quand Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, ça a provoqué un énorme tollé, ça a continué à
On parlait de la
conflit israélo-palestinien.
On parlait de la France et de l'Union européenne. Effectivement, je trouve qu'ils ont une moindre importance par rapport aux États-Unis. Donc, effectivement, les États-Unis ont une échelle plus importante.
Emmanuel Macron qui se veut leader.
Surtout que là, c'est pas n'importe quel pays qui sont intervenus quand même. Ce sont des pays assez puissants.
Oui, c'est vrai.
C'est clair. Et c'est
après,
là que excuse-moi.
Ils sont obligés aussi d'intervenir. Il faut bien qu'ils choisissent quelqu'un, même si c'est Maduro ou Guaido. Je sais pas, je fais allemand.
C'est Guaido.
Ils doivent dire. Je pense que c'est lui ou que c'est lui. Ils peuvent pas rester sans rien dire, à attendre quoi. Qu'il fasse quelque chose.
C'est clair, le silence vaut mieux parler que de se taire. Flavie, tu penses pareil ?
Oui, moi je pense pareil.
Mais c'est là que la complexité de l'organisation mondiale avec l'ONU, le droit de veto, etc., on peut pas faire ce qu'on veut étant donné que la Russie et la Chine sont pour le dictateur. Ça complique énormément les choses, je trouve, ce droit de veto.
Moi, ce qui m'agace dans la situation, c'est qu'on a encore les États-Unis qui va soutenir, par exemple, on va voir qui va soutenir Juan Guaido, et on va avoir la Russie et la Chine qui vont soutenir Maduro. Et donc, on va re-avoir un peu opposant Ouest-Est. Et pendant cela, pendant qu'ils vont jouer à la guéguerre en mettant... Enfin, la guerre, comment dit-on, qui vont poser leur droit de veto ou dire non, je n'accepte pas cette solution, il y a des gens qui sont en train de mourir de faim.
C'est ça. C'est ça qui est embêtant. C'est vraiment le côté politique qui va... L'opposition politique entre le côté Ouest et Est, comme tu dis, qui délaisse totalement le côté humain. Et on voit ça par les migrations, les problèmes de faim, etc. Et c'est horrible. Je suis totalement d'accord.
Mathias ?
Niveau relation, après moi je pense que donner son avis ça peut avoir des avantages, donc mais après je rejoins aussi l'opinion de Sarah parce que ce qu'elle disait, avoir un conflit entre Est et Ouest, ça va forcément amener des choses négatives pour le pays. Donc là en l'occurrence ce seront les âmes de ce pays qui vont être délaissées totalement. Mais après, est-ce qu'ils sont pas intervenus pour une raison économique aussi, parce que même si c'est le Venezuela, il pourrait quand même y avoir des accords internationaux entre les pays qui reconnaissent ou non le président mis en place actuellement.
C'est clair que ça arrangerait plus l'Union européenne et la France que ce soit Juan Guaido et que la démocratie soit de retour. Mais est-ce que Juan Guaido, quelque part, n'est pas juste un sauveur ? Est-ce qu'il est vraiment capable de faire bouger les choses ? Est-ce qu'il n'est pas juste un sauveur, l'image de la révolution peut-être ?
D'une certaine manière, oui, parce qu'il a... Il a freiné les ambitions d'un dictateur, mais est-ce qu'il va faire bouger les choses dans le bon sens ? On ne sait pas encore, ça.
Après, il a promis de faire des élections, donc je pense qu'il va quand même essayer de faire quelque chose, quoi. Il n'est pas juste là pour son image.
Enfin, entre ce qu'on promet et ce qu'on fait,
souvent c'est différent.
Après, il va falloir du temps pour savoir comment ça va se passer. Là, je pense qu'on ne peut pas trop prédire si ça va être un bon président ou pas, quoi.
Et encore si ça en sera un.
Ouais.
Encore si ça en sera un, c'est sûr que la situation est encore complètement... pas encore sûr, voilà, je cherche mes mots, désolé. Et ce que je voulais dire, est-ce qu'il faut justement des élections ? Est-ce qu'il faut intervenir par la force pour instaurer des élections ?
Je pense que ça peut être une solution. Enfin, par la force. Oui,
je dis par la force, c'est forcément armé.
Ah oui. Quel rapport entre la force armée et les élections ?
D'accord. Imposer des élections, enfin que les autres pays comme voilà, les États-Unis imposent.
Ah oui, okay. Ah oui, que ce soit un pays étranger qui impose.
Oui, d'accord. Exactement.
J'ai compris. Bah, ça peut être une solution, mais ça serait bien que ça soit, que ça vienne du pays en lui-même, que ça vienne du gouvernement, que pour que ce soit le peuple qui choisisse, quoi.
Très bien. Écoutez, on va voir comment la situation évolue dans ces prochains jours. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va juste aborder 30 secondes l'Algérie. Je fais juste le petit topo rapidement. Pour résumer la situation, on est en pleine période électorale. Là-bas, c'est les présidentielles. Abdelaziz Bouteflika, on est à son quatrième mandat pour l'instant. Il voulait plutôt briguer son cinquième mandat. Seulement, il n'est plus réellement en état de gouverner. Il ne fait pas partie des défilés, c'est son cadre avec sa photo officielle qui est présentée. La première fois qu'il a été élu, c'était en 1999, je tiens à le préciser. Il souhaite briguer son cinquième mandat. Il était, il y a encore une semaine, à l'hôpital à Genève. Il en est sorti apparemment. Il a dit qu'il voulait être président, sauf qu'une vague de manifestations a explosé dans ce pays d'Afrique du Nord. Et finalement, Abdelaziz Bouteflika ne se représentera pas. Et les élections prévues normalement pour avril sont repoussées. Alors justement, est-ce que Bouteflika doit, même s'il a annulé, est-ce qu'il aurait dû maintenir sa volonté de vouloir gouverner ?
Bah, clairement non. Il y a un moment où... De toute façon, en France, s'il y a une règle de maximum de mandat, c'est pas pour rien. C'est pour éviter, oui, que ce soit toujours les mêmes idées qui se répètent, les mêmes problèmes, le même manque de solutions. Donc là, c'est pareil. Clairement, il faut que ça change. Puis quand on a des problèmes de santé et un âge aussi avancé, faut aussi changer, quoi. Faut aussi savoir arrêter.
D'accord. Samba ?
Bah, je pense qu'il était plus en état de gouverner. En plus, il avait eu un problème, je crois qu'il avait fait un AVC récemment. Oui, du coup, il avait perdu beaucoup de capacité mentale. Donc, puis ça plus là, je pense qu'il était plus du tout en état de gouverner, quoi.
C'est plus lui qui gouverne réellement, c'est ses frères qui s'occupent réellement du pays. Même s'il est là à titre honorifique, et évidemment. Arthur ?
Oui, effectivement, à partir du moment où on est alité et qu'on n'est plus en capacité, et qu'on n'a plus toutes ses capacités intellectuelles et même physiques minimum, je pense qu'il ne faut pas être trop prétentieux pour se proposer à la tête d'un pays.
Bah écoutez, moi je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Cependant, ce qui me fait peur, moi, c'est pas l'état actuel et la situation du pays, puisque d'autres pays ont été dans cette situation, enfin pas dans le sens médical par rapport au président, mais par exemple si on revient sur les faits qu'il y a eu il y a de ça quelques années en Tunisie avec le printemps arabe, le peuple avait souhaité la démission de son chef, donc qui est à l'époque Ben Ali, et ensuite, ça a été donc un élan de violence qui a mené à des manifestations donc similaires à la situation que connaît l'Algérie aujourd'hui. Et ensuite, le problème qu'a donné ces manifestations, c'est surtout l'après printemps arabe, donc à la déchéance de Ben Ali. Donc là, ce qui me fait peur, moi, c'est comment le pays va saisir sa chance, entre guillemets, parce que là, forcément, si le président ne se présente pas, il va forcément y avoir des élections. Et au bout de 25 ans, enfin, je sais pas, combien de temps tu m'as dit qu'il a été élu le président ?
99.
La première fois qu'il a été élu, c'était en 1999.
Donc, au bout de ce temps, est-ce que le peuple saura faire les bons choix, justement, pour assurer sa pérennité ?
Très bien. Sarah, le peuple va-t-il faire le bon choix ?
On verra bien.
Ouais, bah on verra aux élections. Hein.
Très bien, écoutez, c'était l'émission de l'actualité. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot à rajouter ?
Vive la paix.
Vive la paix. Tout le monde dit les beaux, tout le monde est gentil.
Très utopique.
C'est clair.
Écoutez, c'était l'émission de l'actualité sur Radio PFM 99.9. C'était le point international. On a pu parler de l'Algérie assez rapidement, du Venezuela et de l'Angleterre. Merci de nous écouter chaque semaine. Je remercie Sarah.
Au revoir.
Jeanne.
Au revoir.
Héloïse.
À bientôt.
Flavie.
Au revoir.
Mathias.
Au revoir.
Samba.
Au revoir.
Thomas.
Ciao.
Arthur.
Au revoir.
Et enfin, Julie à la régie.
Au revoir.
Ainsi que moi-même, Thibaut à l'animation. Merci de nous écouter chaque semaine. C'était l'Actuality Team. À la semaine prochaine.